président.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Alec Douglas Home disait « Il y a deux types de problèmes dans la vie, les problèmes politiques sont insolubles et les problèmes économiques sont incompréhensibles ». Pas de chance, en ce moment les problèmes politiques semblent également être des problèmes économiques, ce qui fait que les candidats ont à régler des problèmes à la fois incompréhensibles et insolubles. Bref, on a un peu du mal à s'y retrouver. D'aucuns diraient même que cette campagne présidentielle est tout sauf palpitante. Les débats tournent vite à une bataille de chiffres, et malheur à vous si vous avez oublié votre calculatrice. Chiffrage des propositions au centime d'euro près, prévision de croissance, gestion de la dette, équilibre budgétaire, des chiffres, encore et toujours des chiffres. Et même les lettres s'y mettent. Triple A, AA+. On entend les discours, mais on ne les écoute plus, perdus que nous sommes, noyés sous cet amas de chiffres et de lettres. Et surtout, au centre de tout cela, une question lancinante. Est-ce que ces débats vont vraiment nous permettre d'améliorer notre vie ? Non, parce que parfois l'économie, on a l'impression qu'elle est très utile, mais surtout pour fournir du travail aux économistes. L'économie occupe une place essentielle dans les débats de la campagne. Alors pour ne pas être exclu, ou s'en exclure de nous-mêmes, nous avons demandé à un professeur en économie de venir nous éclairer et nous expliquer ce qui se cache derrière cette montagne de chiffres et ces discours d'allure parfois compliquée. En effet, c'est un maître de conférence à l'ENS en économie qui a reçu le prix Jeune chercheur de la région Bretagne en 2011, après avoir reçu le prix Jeune chercheur de la Fondation Banque de France en 2009, qui a pris place derrière le micro de présidence. Bonjour Aurélien Hakem.
Bonjour.
Sinon, dans ce numéro de présidence, Pauline.
Bonjour.
Et son portrait de la semaine, Jérôme, qui n'est pas là en studio, mais qui nous dira tout sur les fameux 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Et Amos, qui, toujours depuis Jérusalem, nous a fait parvenir son carnet de campagne. C'est d'ailleurs lui que l'on écoute maintenant.
Enfin, lui qu'on attendait pour le mois du dieu de la guerre, Mars, s'est déclaré au cœur du froid, bien plus tôt que prévu. La machine s'est mise en route, nec plus ultra du virtuel pour prétendre tromper le réel. Un Facebook Timeline, un compte Twitter avec signature personnelle, NS. Aurait-on affaire à une version 2.0 de l'heureux élu de 2007 ? La rupture de la rupture est-elle possible ? Premiers éléments de réponse en cette soirée du 15 février. Tout d'abord, le conformisme de la déclaration. À 20h, sur la plus grande des chaînes, devant la plus blonde des journalistes. Un simple oui, je suis candidat. Alors l'UMP se met au garde à vous. Un homme a décidé, la droite s'exécute. Fillon, Copé, merci de repasser. On a oublié l'entrée en campagne de François Hollande. Elle fut plus saugrenue, lointaine, il y a près d'un an, en mars 2011, à Tulle, au milieu des gens, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. DSK était alors le flamboyant président du FMI. Puis il y eut les primaires, la gauche qui choisit son champion, démocratiquement. Sarkozy-Hollande, ou le lièvre et la tortue ? Sarkozy, lièvre inquiet, démarre plus tôt que prévu, alors tout semble précipité, mal préparé. La France forte comme slogan. J'admets la belle allitération, le côté gros biscotto du gars qui a séduit la mannequin et sauvé le monde. Mais raté. C'est un slogan giscardien, celui-là même qui n'a pas réussi à se faire réélire. Et que dire de la mer paisible devant laquelle pose le nouveau candidat ? L'horizon, le calme, l'éternité. Le problème ? C'est que cette mère est grecque, et Zeus s'est effacé pour laisser place à Papandréou, le contre-modèle absolu, le pire ou le pire port où Sarkozy pourrait nous mener. Sur TF1, il a d'ailleurs explicitement utilisé la métaphore du capitaine de navire, suffisamment fort pour nous éviter un naufrage à la grecque. Mais à agir trop vite, on en oublie parfois l'essentiel, l'évident, une affiche de campagne vieille école avec la mère grecque en fond. C'est le lièvre qui se fout de la carotte. Nicolas Sarkozy cherche à peser sur les idées. Fidèle à sa campagne des primaires, Hollande, quant à lui, ne propose pas grand-chose. Une gauche raisonnable, tout simplement, plus juste, plus tolérante peut-être, mais il reste dans le flou, le vague, le vide que dénonçait déjà Martine Aubry il y a quelques mois. Sarkozy, il se lâche, il propose des référendums sur le chômage, l'immigration, il s'attaque à tous les corps intermédiaires, il en appelle directement au peuple. Sarkozy 2012, ou le petit père du peuple français ? C'est qu'il est capable de tout, l'homme du Foucault, l'amant soupçonné de Liliane Bettencourt, qui veut s'attaquer à l'entre-soi des élites, à ce microcosme parisien qui dirigerait tout. Triste rhétorique qui laisse à Hollande le loisir de caracoler en tête tout en ne se prononçant sur rien. Le Sarkozy de 2007 qui dominait les débats proposés sans cesse semble encore loin. Et pourtant on connaît sa force, son énergie. Sarkozy peut être le moteur de la campagne. Son entrée en course en dynamite déjà le tempo traditionnel. Les petits s'effacent. Morin et Boutin sont passés à la télé, bravo. Ils sont contents. Ils peuvent rallier le chef. Ensemble, tout sera peut-être possible. Hollande, à force de vouloir apparaître le plus lisse possible, s'est pris à dire dans le Guardian qu'il n'y avait plus de communistes en France. Fureur de Mélenchon, le Rambo des bois chez Rapoline. Pardonnera-t-il ? Reste Marine Le Pen, toujours en embuscade, prête à récupérer les voix des déçus du sarkozisme, ceux qui auront du mal à reconnaître dans le président Bling Bling le héros du peuple. Elle prétend ne pas avoir ses 500 signatures. Rendez-vous en mars. Mars, le mois de la guerre arrive, ses coups bas et ses rêves brisés. Qui seront les deux survivants d'avril ? L'histoire incertaine des prochaines semaines le dira.
Merci Amos. Eva Joly, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, elle les a tous dépeints et repeints. Elle, c'est Pauline, docteur et portrait politique, celle qui passe au détergent ses pinceaux et s'applique avec minutie, faisant attention aux moindres détails dans la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pauline et sa chronique, le portrait de la semaine. Et cette semaine, Pauline, c'est Dominique de Villepin qui a posé pour toi.
Oui, tout à fait. Sur le plateau du 20h de TF1, le 11 décembre 2011, de Villepin a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 2012. « Je veux rassembler tous les Français, ceux de gauche, ceux de droite, ceux du centre », a-t-il assuré. En deçà de cette volonté affichée et ambitieuse de réunir tous les citoyens français au-delà des lignes de division partisanes, il existe chez De Villepin, né Dominique Galouzeau de Villepin, homme politique, diplomate et écrivain français, né le 14 novembre 1953 à Rabat au Maroc, une étonnante clarté et une ordinaire élégance d'un parcours de vie à la fois personnel et semblable au cursus honorum d'un homme public. Clarté d'une existence officielle. Wikipédia, pardon pour la publicité, parvient à le résumer comme suit. Proche collaborateur de Jacques Chirac, Dominique de Villepin est secrétaire général de l'Élysée à partir de 1995, ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004, puis de l'Intérieur de 2004 à 2005 dans les gouvernements Raffarin. Il est nommé Premier ministre par Jacques Chirac le 31 mai 2005. Suite au mouvement contre le contrat première embauche et à l'affaire Clearstream, il renonce à toute ambition présidentielle pour le scrutin de 2007 et quitte ses fonctions le 15 mai 2007. Membre de l'UMP jusqu'en 2011, il est le fondateur du mouvement République solidaire. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2012. Au terme de ce portrait bref, que reste-t-il à dire ? Ajoutons que, né au Maroc, Dominique de Villepin a vécu une majeure partie de son enfance et de son adolescence à l'étranger, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, spécialement au Venezuela. Licencié en droit de Paris 2, diplômé de l'IEP de Paris, ENARC, de Villepin a de fait un bon curriculum de président type 5e République française, mais aussi la connaissance intime et approfondie de l'étranger et de la situation internationale. Ce n'est pas pour rien qu'en 2002, Jacques Chirac, tout juste réélu, le nomme ministre des Affaires étrangères. Et c'est ensemble que les deux hommes s'opposent à la guerre en Irak voulue par les États-Unis. C'est à ce propos justement que le 14 février 2003, dans l'enceinte même du Conseil de sécurité des Nations Unies, Dominique de Villepin prononce un discours mémorable. Les applaudissements tonnent, les compliments fusent. Mais la reconnaissance obtenue à cette occasion fait long feu, dès lors que ce surdoué de l'international, des affaires étrangères et de la diplomatie, dès lors que ce docteur S citoyenneté du monde, abandonne ses préoccupations sincèrement cosmopolitiques au profit de prérogatives plus banalement politiques sinon politiciennes. De diplomate travaillant en ambassade aux plus hautes fonctions du Quai d'Orsay, il y avait déjà une ascension vertigineuse autant que dangereuse. Mais si être ministre des Affaires étrangères pouvait encore relever du sacerdoce, se voir nommé ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, en revanche, ce ne pouvait être qu'un os. Et quel os ! Comment ne pas remarquer, en effet, la difficulté pour cet homme du monde, au sens de membre de l'élite mondaine et de défenseur de l'appartenance commune de tous les hommes à un même peuple et à une même planète, à concilier ses devoirs de politicien au service d'un gouvernement et ses convictions d'homme sans autre foi ni loi que celle de l'humanité et de la paix ? Comment ne pas mentionner le premier exemple de cette lutte vaine quand, ministre de l'Intérieur du gouvernement Raffarin, Villepin tient au sujet du référendum de 2005 sur le traité de constitution européenne ses paroles, à rebours de la ligne officielle du gouvernement et à l'origine d'un conflit avec le Premier ministre, que les Français votent oui ou non, qu'ils votent oui ou non, il faudra une politique encore plus volontaire, encore plus audacieuse, encore plus solidaire. C'est précisément quand, et parce qu'il a voulu mener de front la digne carrière d'un diplomate d'envergure mondiale et le parcours sinueux d'un homme politique d'échelle franco-française, que Dominique de Villepin s'est épuisé. Non pas en brûlant toute son énergie et toute sa force à boucler la somme infinie de dossiers interminables, mais en tentant avec acharnement de concilier l'inconciliable. Au final, ce sont bien des sujets relevant de l'intérieur qui emportent cet irrédentiste partisan de l'amitié entre les peuples, qui perd de ce fin connaisseur de l'extérieur. Nommé Premier ministre le 31 mai 2005, remplaçant Jean-Pierre Raffarin, celui qui a passé une grande partie de sa vie privée et professionnelle à l'étranger affirme son intention, selon ses propres mots, de remettre la France en marche. Et pour ce faire, se donne 100 jours. Il y a manifestement dans ces deux mots, 100 jours, la volonté de se fixer une limite temporelle et avec l'expression d'un défi lancé à la France, mais aussi, sinon surtout, à lui-même. Par ces deux mots, ce perfectionniste, jouissant de l'élégance de la rigidité aussi bien que de la rigueur de l'intégrité, ne se contentait pas d'annoncer le planning du gouvernement, ni de formuler une énième promesse aux Français. Non, c'était là tout le délai qu'il se donnait à lui-même, pour agir et plus encore, pour se convaincre. Mais il échoue. En octobre de la même année, les banlieues s'enflamment. Puis vient la protestation contre le projet de loi contrat première embauche ou CPE. À la mi-2006, le Premier ministre est mis en cause dans l'affaire Clearstream, qui le poursuit encore. C'est le 15 mai 2007 qu'il démissionne, à la veille de la passation de pouvoir entre Chirac et Sarkozy, son ennemi de toujours. Ils sont loin, les 100 jours, et les jours d'antan, où de Villepin avait un présent passionnant et un avenir brillant. Il a cédé aux apprêts des ministères, aux charmes du gouvernement et aux autres chants des sirènes. C'est tout ça pourquoi ? Pour, au terme de ces 100 jours, étrangement semblables à une particule près, à Napoléon, devoir prendre le large, ramer et ramer encore, échouer sur son île de Sainte-Hélène à lui, comprenez procès Clearstream, campagne présidentielle quasi fantôme, faiblesse des intentions de vote, lui ce galérien qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, mais qui a déplu, défié et finalement été désarmé. Dominique de Villepin, c'est la saga pas encore terminée d'un mec pourtant déjà fini. Celui qui s'est payé de politique quand il était fait pour la diplomatie et la poésie. Rendez-vous manqué avec un destin dont j'aime à croire cependant qu'il aurait été hors du commun, semblable à ces mots, tiré du discours contre la guerre en Irak. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à reconstruire ensemble un monde meilleur.
Merci Pauline. Lors de la perte du triple A français, Dominique de Villepin justement a déclaré « La dégradation de la dette signifie clairement l'échec du quinquennat », énumérant « échec d'un volontarisme de façade, échec d'une vision dans laquelle tout dépendait de cette unique formule magique, tout faire pour conserver le triple A ». Depuis quelques mois, la campagne présidentielle ne tourne plus qu'autour de cela. Triple A, gestion de la dette, chiffrage des programmes des candidats, équilibre, dépenses, recettes, relance de la croissance ou plan de rigueur. Bref, en 2012, la campagne est à l'aune de l'économie reine. Pour parler de tout cela, un invité, Aurélien Ekem. Aurélien Ekem, bonjour.
Bonjour.
Alors Aurélien Ekem, je vous représente, vous êtes maître de conférence à l'ENS en économie, d'où cette invitation. Vous avez reçu le prix Jeune chercheur de la région Bretagne en 2011 et celui de la Fondation Banque de France en 2009. Et vous avez publié de nombreux articles, notamment sur la politique monétaire de l'Union européenne. Tout ça est disponible sur votre site internet. Alors mi-janvier, la note de la France a été dégradée par l'agence Standard & Poor's avec celle de 8 autres pays européens. La France a perdu son symbolique triple A pour descendre à l'échelon juste en dessous, AA+. Alors que de tous bords, on accuse le président d'être responsable d'une dégradation aux conséquences inquiétantes, Nicolas Sarkozy, lui, essayait de minimiser cette dégradation. Et pendant plusieurs semaines, on n'a parlé que de cela. Et encore maintenant, l'ombre de la perte du triple A semble plomber le bilan de Nicolas Sarkozy. Trois petites lettres, donc, perdues pour une polémique au long cours. Trois petites lettres que personne ne connaissait avant que Nicolas Sarkozy en fasse l'année dernière son cheval de bataille, faisant de leur sauvegarde la clé de sa réélection. Trois petites lettres qui ont saturé les ondes, les JT et les colonnes de la presse écrite, mais trois petites lettres dont on sait finalement peu de choses. Alors, tout d'abord, que sont ces agences de notation qui attribuent les trois petites lettres ou pas ? Quelle est leur légitimité et quels sont leurs critères pour attribuer une note aux États ?
En fait, ces agences de notation sont assez anciennes. Elles, elles ont été créées pour la plupart au lendemain de la guerre, et elles ont pour objectif d'évaluer la qualité de la signature d'un emprunteur, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit une entreprise ou un État. Leur rémunération vient de ce qu'elles notent. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va vouloir emprunter de l'argent sur les marchés financiers va demander à cette agence de notation d'évaluer la qualité de sa signature. Et les emprunteurs font ça généralement parce que ça permet aux prêteurs d'avoir accès à une information à moindre coût. Pour les emprunteurs, ça peut faciliter le fait qu'ils empruntent. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Généralement, les gens qui travaillent dans les agences de notation sont des gens qui travaillent déjà sur les marchés financiers. Donc, ils ont les critères d'évaluation qui sont ceux des marchés financiers. C'est-à-dire, ils se basent sur les prévisions de croissance, tout un tas de chiffres, des études économiques sur les perspectives des différents pays, en l'occurrence pour le cas des obligations d'État. Et ils émettent leur avis, leur opinion sur la capacité d'un État à rembourser. Alors la légitimité dont ils disposent, elle ne tient qu'à la légitimité que leur accordent les autres acteurs sur les marchés financiers. Et on voit d'ailleurs, de manière assez intéressante, je trouve, que la plupart des acteurs sur les marchés financiers, alors aux États-Unis avant l'été et en Europe à peu près au moment de l'été, voire au début de l'automne, avaient déjà symboliquement et en termes de décision sur les marchés financiers acté la dégradation de la note des États-Unis cet été et puis des différents pays européens cet hiver. Dans leur décision, c'était déjà inclus. Ils avaient déjà fait leurs petites prévisions, ils avaient déjà fait leurs calculs. Et finalement, la dégradation officielle par les différentes agences de notation n'ont eu que très peu d'effet. Autrement dit, les agences de notation, par moment, font une espèce de double emploi avec les services de recherche des banques, etc., qui sont, elles, chargées d'évaluer aussi, d'une certaine façon, la qualité des différents actifs. Donc, je pense qu'il faut relativiser un petit peu le rôle de ces agences de notation. Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de ce triple A. Et d'ailleurs, on le voit, la première chose qu'ils ont fait, notamment François Baroin, qui est ministre de l'économie et des finances, c'est de venir au JT de France 2 pour expliquer que non, finalement, on passait que de 20 sur 20 à 19 sur 20 et que c'était pas si grave que ça.
Pourquoi autant de symbolique autour du triple A et de cette note de 20 sur 20? Quels sont les avantages que peut avoir un pays qui garde son triple A? On sait qu'aujourd'hui, il y en a encore une quinzaine qui ont ce fameux sésame de par le monde.
Alors, tous les actifs sur les marchés financiers sont valorisés à partir des actifs sans risque. Et les actifs sans risque, dans l'histoire, les actifs les moins risqués, sont généralement les obligations d'État. Des grands pays adossés à de grandes puissances, comme les États-Unis, l'Allemagne, la France.
C'est avant, on disait, investissez dans l'or ou prenez un bon du trésor, par exemple.
Voilà, exactement. Donc, c'est le principe de valorisation des différents actifs sur les marchés financiers, c'est on les valorise, pas dans l'absolu, mais par rapport aux actifs non risqués. Et si vous voulez, ce qui est un peu inquiétant pour les marchés financiers, c'est que quand ces actifs non risqués deviennent ne serait-ce qu'un tout petit peu risqués, si vous voulez, c'est comme si c'était toute l'échelle de la valorisation des actifs financiers qui était transportée. Et donc, ça fait craindre une augmentation globale du risque sur les marchés financiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit que si un actif très peu risqué devient un tout petit peu plus risqué, la conséquence, ça va être généralement que le taux d'intérêt pour celui qui va émettre cet actif va être un petit peu plus élevé, parce qu'en fait, la différence entre un actif risqué et un actif non risqué, c'est qu'il faut rémunérer la personne qui va souscrire ce titre pour sa prise de risque. Donc même une petite différence de risque, par exemple entre la France et l'Allemagne.
Triple A plus.
Voilà, on va dire ça par exemple. D'accord ? Ça voudra dire que le taux d'intérêt que les Français devront servir sur les obligations d'État devra être un petit peu plus élevé que le taux d'intérêt servi sur les obligations d'État allemandes. Et ça a des conséquences assez importantes parce que le taux d'intérêt, c'est un déterminant essentiel pour la soutenabilité de la dette.
Mais c'était déjà le cas avant, de toute façon, dès l'été, alors que l'Allemagne et la France avaient encore tous les deux leur triple A, l'Allemagne avait des taux d'intérêt de l'ordre de 1,5 et la France était au-dessus de la barre des 2,03 la plupart du temps. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on a une agence, Standard & Poor's, qui a dégradé la note de la France, qui a dit donc la France est plus risquée. Mais dans un autre temps, on a deux autres grandes agences, puisqu'il y a en gros une oligopole pour les agences de notation, avec donc Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings. Et donc les deux dernières, elles ont maintenu le triple A. Donc elles considèrent que la France n'est pas si risquée que ça et pas besoin de la dégrader. Donc dans ces cas-là, comment on fait ? La France, elle l'a perdu ou elle l'a conservé son triple A ? Et qu'est-ce qui fait autorité ?
Sur les marchés financiers, les agents, certes, se fient aux notes qui sont données par les agences de notation, mais je crois qu'ils sont absolument pas... Enfin, il est absolument nécessaire qu'ils n'en s'en tiennent pas là. Il est absolument nécessaire qu'ils fassent leur propre analyse. Et si vous voulez, le fait que certaines agences aient dégradé la note de la France et que d'autres aient, au contraire, conservé la note... Si on regarde, ne serait-ce qu'une comparaison entre la France et l'Allemagne, hein, il y a des niveaux d'endettement qui sont élevés dans les deux pays. Il y a des raisons qui font penser que l'Allemagne va un peu mieux économiquement, hein, plus de croissance, beaucoup moins de chômage, même si il y a des emplois précaires en Allemagne qui se sont développés notamment depuis la réforme mise en place par M. Schröder. Et en France, une croissance un peu plus atone, un peu plus de chômage, mais une natalité beaucoup plus importante qu'en Allemagne, qui fera que d'ici quelques années, le nombre de Français dépassera le nombre d'Allemands, et que la dette, si on la ramène au nombre, enfin si on la ramène
en proportion,
en proportion à la population, si vous voulez, sera finalement plus faible en France qu'en Allemagne. Donc, je crois que cette histoire de notation, il faut y attacher une importance que très relative, et je crois que c'est un peu une erreur de la part des hommes politiques d'y avoir attaché autant d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est beaucoup plus d'expliquer comment est-ce qu'on va essayer de stabiliser cette dette qui a beaucoup augmenté. Alors, parfois pour des raisons politiques, parce qu'il y a eu des choix en termes de fiscalité qui ont été faits, mais aussi, tout simplement, à cause de la crise, pour une bonne partie aussi.
C'est vrai que, donc, comme vous le dites, on a l'impression que la politique et les décisions politiques sont de plus en plus soumises au monde de la finance, mais par la volonté même des acteurs politiques, qui se réfèrent de plus en plus à eux et qui tiennent des discours volontairement de plus en plus avec des conseillers politiques qui sont des conseillers économiques et qui se réfèrent donc à cela. Michel Rocard disait « l'économie ne change pas par décret, les hommes politiques... » Est-ce qu'ils ont encore une influence, un poids sur la finance et l'économie, ou est-ce que, en quelque sorte, la finance, c'est elle qui gouverne les pays occidentaux, comme le laisse supposer cette phrase de Michel Rocard, l'économie ne change pas par décret.
Peut-être juste faire un petit peu de mise en perspective, parce que je crois que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle a vraiment commencé à se mettre en place dans les années 80, au moment où on a décidé de libéraliser de manière assez importante les marchés financiers, de les décloisonner. Il y a eu une loi en France qu'on a appelée la loi bancaire de 1984 qui a libéralisé tout un tas d'opérations sur les marchés financiers et qui a eu tendance à ouvrir les marchés financiers aussi vis-à-vis du reste du monde. Et je crois qu'en faisant ça, on a certes, par certains égards, profiter des bénéfices liés à la libéralisation des marchés financiers. Mais aujourd'hui, on en paye un petit peu le prix. Aujourd'hui, la dette publique française est détenue majoritairement par des agents privés qui ne sont pas nécessairement français. Si on fait la comparaison avec le Japon, qui a une dette publique qui est très importante...
229% de la part de son PIB, alors que nous, c'est 77% à peu près.
Voilà. Et en fait... Si on regarde le taux d'intérêt qui est servi sur cette dette, il est très faible. Il est de l'ordre de 1%. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, et d'ailleurs la dette japonaise est très mal notée par les agences de notation. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que 97% de la dette japonaise est détenue par les ménages japonais. Donc on voit que le lien entre la note et le taux d'intérêt n'est pas immédiat. Et on voit aussi qu'on a fait par moments certains choix, notamment en termes de libéralisation financière, qui nous ont conduits à des situations où on s'est un petit peu exposé à des contraintes qui aujourd'hui sont des contraintes effectives. Alors, il y a aussi un petit peu de mauvaise foi politique à dire qu'on ne peut rien faire. Sur les marchés financiers, il n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. C'est vrai par contre qu'il est devenu très technique et relativement long de mettre en place des processus de contrôle, de taxation des transactions financières. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas vrai qu'on peut rien faire.
Alors, on parle de la dette de la France. On sait qu'à partir de juillet, sans les emprunts, la France n'est pas capable de payer ses dépenses courantes. Rien que ça. Mais elle n'est pas la seule, on en a parlé juste à l'instant. Tous les pays industrialisés sont dans la même situation. On a parlé du Japon avec son endettement record, 229% de son PIB. Évidemment, la Grèce qui a fait la couverture de tous les médias, 152% de son PIB. Mais aussi la Belgique, 97%, les États-Unis, 99,6%. Tout ça, c'est des taux d'endettement qui paraissent exorbitants, mais finalement qui sont répandus partout. Donc finalement, l'endettement, il est normal.
Aucune guerre ne s'est financée sans des montants de dettes colossaux qui, par ailleurs, n'ont jamais été remboursés. D'accord ? Donc la dette, c'est pas un mécanisme qui est particulièrement nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que là encore, au début des années 80, il y a tout un tas de travaux qui ont essayé de pousser vers l'indépendance des banques centrales. Alors ça, c'est un point qui est assez important parce que jusqu'à assez tard, les banques centrales étaient assez dépendantes du pouvoir exécutif et avaient le droit de financer directement le trésor. Autrement dit, on avait le droit d'émettre de la monnaie pour financer la dette. On a décidé de rendre ces banques centrales indépendantes. Du coup, on s'est privé de la possibilité de financer les déficits publics par l'émission de monnaie. Alors, ça peut expliquer de manière assez forte la raison pour laquelle les dettes publiques ont commencé à augmenter de manière significative à partir de cette période-là.
Et l'idée, du coup, que l'endettement est devenu normal, même si c'est un processus historique et qui a donc, on a vu avec le financement des guerres, il a quand même été accéléré depuis...
Alors, il a aussi été effectivement un petit peu accéléré par le fait que on a pensé que s'endetter, finalement, c'était un bon moyen de réduire un peu les impôts tout en maintenant un certain niveau de dette publique. Hein, je pense à la France, qui, il me semble, depuis 1979, n'a jamais voté un budget en équilibre.
75, oui. Depuis 1975.
Oui.
Ça fait quelques années que certains candidats, notamment François Bayrou en tête, depuis 2007, dit il faut faire attention à la rigueur, à bien regarder l'équilibre du budget entre les dépenses et les recettes. Et aujourd'hui, il dit un peu, puisque tout le monde reprend son discours, bah vous voyez, j'avais raison. Et la solution qui est proposée, souvent, c'est ce gros mot qui est devenu l'austérité. C'est ça la seule solution qu'on a aujourd'hui, l'austérité. Et est-ce que c'est si nuisible que ça pour l'économie? Puisque tout le monde dit, mais oui, mais si les critiques contre l'austérité, c'est si on met en place une politique d'austérité, ça va avoir un impact négatif sur la croissance. Et du coup, on est dans un cercle vicieux, on s'en sort pas non plus.
Vous avez raison de souligner la difficulté du problème. En gros, hein, les grands déterminants de la soutenabilité de la dette, c'est le taux d'intérêt nominal, l'inflation et la croissance. En gros, quand le taux d'intérêt augmente, ça rend la dette moins soutenable. Quand l'inflation augmente, ça la rend plus soutenable. Quand la croissance augmente, ça la rend plus soutenable. C'est pour ça que vous avez des gens aujourd'hui qui proposent que la Banque Centrale Européenne, un peu comme faisaient les banques centrales avant les années 80, finance directement le rachat d'obligations sur le marché primaire, c'est-à-dire directement émises par les trésors nationaux pour soulager les États et finalement dire, ben, en gros, on va financer notre dette en faisant de l'inflation. D'accord ? En faisant de l'inflation, en fait, mécaniquement, on réduit la valeur réelle de notre dette et c'est une espèce de jeu un peu de dupe avec les emprunteurs, c'est-à-dire que finalement, c'est une dette qui n'est jamais véritablement remboursée, du moins en totalité. L'autre levier important, c'est la croissance. Et la croissance, c'est un levier qui est extrêmement puissant pour payer ses dettes. Et je pense qu'il est largement, aujourd'hui, négligé par les différentes propositions, notamment des candidats à la présidentielle, parce que c'est un levier beaucoup plus efficace que les économies budgétaires ou les augmentations d'impôts pour réduire la dette. Et je pense que les agences de notation, enfin, quand on les écoute un petit peu parler, elles sont au moins aussi inquiètes des niveaux d'endettement que de l'austérité et du manque de croissance dans les différents pays. D'accord. Alors, ce qui est possible de faire, c'est d'essayer de ne pas dépenser plus et de garder un niveau de prélèvement satisfaisant, mais de moduler à l'intérieur de ce niveau de dépenses et de ce niveau de prélèvement les dépenses et les prélèvements, d'en modifier la structure pour essayer d'améliorer la croissance. Donc de libérer par exemple du pouvoir d'achat pour les personnes qui ont un pouvoir d'achat faible ou de financer plus prioritairement par exemple certains investissements plutôt que des dépenses de fonctionnement. Mais c'est à l'intérieur de ce budget-là, réallouer les différents postes pour essayer de stimuler la croissance. Alors, l'inconvénient de ce type de politique, c'est que c'est pas immédiat, c'est un peu coûteux à faire et c'est pas immédiat en termes de résultats.
Merci beaucoup Aurélien Ekem d'avoir répondu à nos questions. J'espère que grâce à ces explications, nos auditeurs seront plus à même de comprendre dans les détails les enjeux d'une campagne qui peut en effet parfois sembler assez technique. Alors vous le savez, pour être candidat à la présidence de la République, il faut une chose importante. Collecter 500 signatures, 500 parrainages de maire. Or la chose est loin d'être aisée, même pour des candidats connus comme Marine Le Pen, Dominique de Villepin, Christine Boutin ou Nicolas Dupont-Aignan. Alors qui a inventé cette règle? Pourquoi? Et à qui profite le crime? Jérôme va répondre à toutes ces questions.
Le chiffre du moment sur la scène politique française, 500. Il s'agit des 500 signatures d'élus que tout prétendant à l'élection reine de notre vie politique, l'élection présidentielle, doit nécessairement présenter au Conseil constitutionnel s'il veut pouvoir être officiellement candidat. Ces 500 signatures, ce phénix, ce serpent de mer qui fait réapparition tous les 7 ou 5 ans à la veille des présidentielles avant de sombrer dans l'oubli de nouveau. Aujourd'hui, cette méthode de présélection fait beaucoup parler d'elle. Marine Le Pen elle-même affirme qu'il s'agirait d'un séisme politique et d'une grave atteinte à la démocratie française si elle ne parvenait pas à réunir ses 500 parrainages alors qu'elle représente une partie très importante de la population française et qu'elle talonne le président de la République dans les sondages. A contrario, l'inconnu Jacques Cheminade, fondateur du micro-parti Solidarité et Progrès, qui a tenté de se présenter à toutes les élections présidentielles depuis 1981, mais n'a pour l'instant réussi à obtenir les 500 parrainages qu'en 1995, où il avait obtenu 0,27% des voix, prétend être de nouveau parvenu à réunir ses 500 précieuses promesses en vue de la prochaine présidentielle de 2012. Comment Jacques Cheminade, crédité de 0%, peut-il donc réussir là où Marine Le Pen, forte d'une vingtaine de pourcents, menace d'échouer? Alors, revenons, si vous le voulez bien, à ce fatal obstacle de la course à la présidentielle. Ce système de filtrage remonte à l'instauration, par le général de Gaulle, de l'élection du président de la République française au suffrage universel direct, c'est-à-dire en 1962. L'objectif de cette présélection était d'éviter les candidatures fantaisistes, pour ne pas se retrouver avec des centaines de candidats sur la ligne de départ. Pour avoir le droit de se présenter, tout candidat devait impérativement obtenir 100 signatures d'élus. Ces élus étaient, et sont toujours aujourd'hui, environ 47 000. Pour la plupart des maires, environ 36 000, mais aussi des parlementaires, les députés, les sénateurs, les eurodéputés français, ainsi que les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et des assemblées territoriales. Mais à l'épreuve des faits, force fut de constater que ce filtrage ne suffisait pas. Et, d'élection en élection, l'inflation du nombre de candidats fut prodigieuse, l'effectif ayant doublé de 6 à 12 de 1965 à 1974. En but au risque que constituait cette inflation, Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, a mené une réforme de cette règle des parrainages, réforme toujours en vigueur aujourd'hui, en faisant passer de 100 à 500 le nombre de signatures d'élus qu'un candidat devait présenter pour prétendre à être sur la ligne de départ. Qui plus est, ces 500 élus devaient être issus d'au moins 30 départements, soit un tiers du territoire national, et pas plus de 50 par département. Cette répartition géographique visait à éviter l'existence de candidatures régionalistes. La réforme était drastique, mais c'était à ce prix que les candidatures fantaisistes ont pu, plus ou moins, être évitées. Cependant, ce système visant à limiter le nombre de candidats a montré ses failles, puisque le record reste aujourd'hui celui des élections de 2002, où il y eut 16 candidats qui avaient chacun obtenu leurs 500 parrainages ou davantage encore. Et l'on se souvient du résultat. Abstention massive, dispersion des voix, disqualification dès le premier tour du socialiste Lionel Jospin au profit de Jean-Marie Le Pen. Un Jean-Marie Le Pen qui pourtant avait ramé à trouver ses 500 signatures, d'autant plus que Bruno Maigret était lui aussi sur le coup. C'est ainsi que des candidats représentant des millions d'électeurs se retrouvent à chaque élection dans des situations critiques pour pouvoir se présenter. Ensuite, si Jean-Marie Le Pen n'a en effet pas pu se présenter en 1981, où il ne représentait qu'une très faible portion de la population, Depuis qu'il occupe une place de premier plan sur la scène politique française, c'est-à-dire depuis le milieu des années 80, à chaque élection, et malgré ses comédies visant à faire croire qu'il n'aura pas ses 500 signatures, il les a finalement bel et bien eues, que ce soit en 88, en 95, en 2002 ou en 2007. Cette année, c'est rebelote. Sauf qu'on a changé de génération, changé de prénom. La fille, Marine, prétend avoir de grandes difficultés à réunir ses 500 promesses indispensables, ce Graal, pour se présenter à l'élection reine. Elle a même saisi le Conseil constitutionnel pour demander l'anonymat des 500 parrainages. Cela dit, il est vrai que, puisque les noms des signataires sont rendus publics, généralement le surlendemain de la date de clôture des candidatures et de la remise des parrainages, les élus locaux sont susceptibles de recevoir des pressions des grands partis officiels qui peuvent par exemple les sanctionner en leur retirant des subventions, ou encore de leurs électeurs, qui peuvent se détourner d'eux s'ils voient qu'ils ont signé pour la candidature d'un représentant d'une autre sensibilité politique, a fortiori s'il s'agit des extrêmes. La procédure est rendue encore plus complexe par le fait que, pour l'instant, il ne s'agit encore que de promesses, puisque la publication du décret de convocation des électeurs et l'envoi des bulletins de parrainage aux élus n'aura lieu que le 23 février. Il faudra ensuite attendre le 19 mars pour connaître la liste définitive des candidats. Autrement dit, pour l'instant, rien n'est sûr pour personne et l'essai marqué par ceux qui disent avoir d'ores et déjà leurs 500 promesses reste à transformer.
Merci Jérôme. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez ajouter Présidence parmi vos amis sur Facebook. Merci encore à Aurélia Eken d'avoir accepté notre invitation. Merci à Caroline et Xavier à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Et à très vite sur les ondes de Transistor. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.